BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, c'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui ouvre ses portes. On reste connecté au marché et c'est grâce ce matin à Thibaut François qui nous attend chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Bon, dites donc, ce lundi matin menace une nouvelle fois les 6000 points. Il y a des tentations, je sais pas, on a mis les sacs de sable pour le moment et on essaye de tenir.
Ouais, pour l'instant ça tient les 6000 points. On remonte un tout petit peu d'ailleurs sur l'indice depuis ce matin. On est à 6060 points, on perd 1,78%, mais bon, c'est vrai que c'est quand même une matinée qui est quand même douloureuse pour l'indice CAC 40. On se retrouve avec un marché qui vend tout ou presque. Parce qu'on a juste Thales et Total Energy qui sont plutôt à la hausse. Thales gagne 2%, Total Energy gagne 1,5%. J'ai envie de dire que c'est un petit peu ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est-à-dire que Thales et Total Energy montent aujourd'hui, sachant que ce sont les plus fortes hausses du CAC 40 depuis le début de l'année, avec 63% de hausse pour Thales et un peu plus de 17% de hausse pour Total Energy. La partie ukrainienne et la partie énergétique est toujours au cœur de l'actualité. C'est ce qui se passe, c'est vraiment la thématique d'investissement depuis le début de l'année. La reprise de la guerre favorise les équipementiers de défense, notamment Thales, notamment Dassault Aviation, et on se retrouve avec Total Energy qui profite, on va dire, d'un prix du baril et d'un prix du matière première qui est en forte hausse, sachant que les volumes ne baissent pas, et donc un effet d'aubaine qui est extrêmement important sur les énergiciens et sur les producteurs de pétrole. Donc on se retrouve avec Total Energy qui est pratiquement en tête du palmarès depuis le début de l'année.
Quels sont justement les dossiers dans ce contexte particulier que vous regardez plus spécialement ce matin ?
Bah écoutez, c'est pas facile de faire de la micro ce matin parce que il y a tout baisse ou presque. Donc comme je le disais à l'instant, on a Total et Thales qui sont plutôt à surperformer. On voit bien que les flux de toute façon sont extrêmement négatifs sur les actions, sur les obligations depuis le début de l'année. Donc des sorties de cash et donc on est plutôt en train de gérer, on va dire, les liquidités sur la partie des fonds. Sur la partie microéconomique, on va dire, rien n'a changé ou presque. C'est-à-dire que, effectivement, la crise énergétique devrait entraîner le marché sur une récession aux États-Unis et en Europe. Alors, est-ce qu'elle sera dure, est-ce qu'elle sera rapide? C'est un petit peu les anticipations qu'il va falloir faire sur les prochaines semaines, sachant que l'activité, on part sur des niveaux qui sont extrêmement hauts. La partie emploi est plutôt bonne, donc on pourrait s'attendre à une récession plutôt de courte durée, plutôt légère sur la partie américaine et sur la partie européenne, qui nous permettrait d'avoir un peu plus de visibilité sur les prochains mois. En tout cas, à court terme, le marché anticipe vraiment une récession plutôt dure. En plus des hausses de taux qui seront rapides aux États-Unis et en Europe, et donc le marché perd un petit peu de visibilité et perd un petit peu ses repères à court terme. Il va falloir un petit peu plus de stabilité sur la partie environnement macroéconomique pour pouvoir refaire le tri d'un point de vue microéconomique. C'est vrai que d'un point de vue microéconomique, aujourd'hui le marché a plutôt tendance à vendre les cycliques de façon large, sans discrimination, et donc on se retrouve avec des moins 3, moins 4, moins 5 sur la plupart des valeurs de cycliques du CAC 40. D'accord. Que ce soit Alstom, que ce soit Renault, Stellantis ou Saint-Gobain, qui sont en queue de peloton sur la partie palmarès du CAC 40.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Merci Thibaut. Thibaut François depuis Fastea Capital, le marché parisien qui se replie d'1,8%, 6054 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Éric Turgeman et Jean-François Robin sont autour de la table. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Éric Turgeman pour OFIEM, Jean-François Robin pour Natixis. D'abord, voilà, cette difficulté du marché à tenir les 6000, on a l'impression qu'on a vraiment ce seuil en tête. On l'a menacé la semaine dernière, on le remenace à l'entame de cette semaine. Éric, qu'est-ce que ça vous inspire,
Ça m'inspire que d'un côté, il y a quand même tout qui va mal. Mm-hmm. Faut quand même le dire. La guerre qui n'en finit pas. Depuis maintenant 2 jours, l'arrêt de Nord Stream. Enfin bon, ça c'est une plaisanterie.
Parce le que nouvel arrêt.
C'est très bien que c'était politique et que les Russes prennent les devants et sont prêts donc à couper le gaz aux Européens avec toutes les conséquences que ça a derrière. Les prix. Un hiver qui va être compliqué, alors même si on dit, notamment en France, qu'on va pouvoir le passer, mais on connaît la dépendance de l'Allemagne, au gaz russe, etc. Donc, ça, c'est une chose. Les banques centrales qui n'ont pas d'autre choix, si elles veulent lutter contre l'inflation, que de continuer à augmenter les taux d'intérêt. Donc, les banques centrales étaient dans le déni il y a encore quelques mois, en considérant que c'était transitoire, l'inflation, et s'aperçoivent que ce n'est pas transitoire, et en plus... Elles n'ont pas de chance parce que ben, voilà, la pénurie des matières premières accélère l'inflation. Donc, inflation, banque centrale plus au quiche, comme on dit dans notre jargon, et puis une récession qui commence à pointer parce que derrière, effectivement, ben, ça fait des pouvoirs d'achat des consommateurs qui sont amputés et donc une croissance mondiale qui est revue en baisse. Alors là, ça fait quand même un cocktail quand même assez détonnant. Et effectivement, tous ces éléments sont négatifs. Mais, parce qu'en fait, vous avez dit le CAC 40 à 6000 et qui les casse pas, mm-hmm. Ben derrière, il y a quand même une valorisation, puisque tout a un prix dans les deux sens. C'est-à-dire que quand tout allait bien, il y a encore deux ans, hein, enfin non, on va dire un peu avant le Covid, tout allait bien, est-ce que c'était une raison pour payer 50 ou 60 fois les bénéfices? Et quand tout va mal, est-ce que c'est une raison, dans certains cas, de payer deux fois ou deux fois et demi les bénéfices des sociétés automobiles, même si effectivement l'avenir n'est pas rose, mais est-ce que ça vaut deux fois et demi ou cinq fois les profits des banques françaises et à peu près 0,3 fois la boucle dans certains cas? Et c'est pour ça que le marché ne s'écroule pas, parce que d'une certaine façon... Il a quand même anticipé, puisque vous avez quand même une baisse des cours, mmh. des profits qui ne sont pas revus en baisse. Alors on se demande pourquoi, mais toujours est-il que à septembre, on n'a jamais attendu autant de hausse des bénéfices 2022. C'est-à-dire que les analystes ont revu au fur et à mesure les bénéfices suite aux publications et suite aux messages des chefs d'entreprise. Ben vous avez un marché qui baisse, des bénéfices revus en hausse, ça fait des multiples de capitalisation revus en baisse autour de 11 fois les 12 mois à venir. Et ça vient contrebalancer tous les effets négatifs que j'ai évoqués. C'est pour ça qu'on a un marché qui tangue, mais qui ne plie pas complètement.
Votre regard, Jean-François ?
Alors, il y a
effectivement, situation délicate tout de même.
Situation délicate, très délicate. Moi, mon regard est un petit peu différent sur ce qui se passe là ce matin, sur les bourses, sur l'euro, etc. La façon de l'expliquer, je pense, elle est un petit peu technique, elle est un petit peu un coup de pression et de peur sur les acteurs du marché de l'énergie. Je m'explique. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a plus de crise énergétique pour cet hiver, quoi. Donc on se fait peur sur cet hiver, mais c'est terminé. Il n'y aura pas de crise énergétique
pour cet hiver jusqu'en mars, avril, voilà, c'est
on
bon.
On est à 92% en France, on a 80% en Europe. Le gaz russe, c'est plus que 7% du gaz européen. Donc il peut arrêter le gaz s'il veut. On n'a pas trop de soucis pour cet hiver. Donc tout le monde se dit ah oui d'accord. Bon alors donc on arrête de se faire peur avec ça. Faisons-nous peur un petit peu sur 2023-2024. Mais 2023-2024, il y a quand même un certain nombre de choses qui vont évoluer. Il y a une accélération quand même formidable du renouvelable. On entend tous les jours des trucs qui se branchent. On va être à quasiment 1 gigawatt de branchés au large de Saint-Nazaire. C'est une et demie, voire deux centrales nucléaires qui sont en train de brancher. Et surtout le nucléaire, EDF nous annonce qu'il va rouvrir quand même. En tout cas, il y aura trois fois moins de centrales de fermées cet hiver. On va quand même rouvrir. Flamanville doit arriver à un moment ou un autre. Donc on est au pire sur la situation nucléaire. Le gaz, c'est à peu près réglé. La consommation d'énergie des Allemands par rapport à l'année dernière, c'est moins 15%. Donc entre 80% de stock et les baisses de la consommation
énergétique. Et en France, ça baisse aussi. Hein.
Voilà. Donc en fait, on passe l'hiver et sans doute 2023-2024 aussi. Donc le sujet, il est même plus trop là parce que plus le temps passe et plus. Regardez, l'Allemagne, il y a 5 terminaux LNG qui vont être branchés dans les prochains mois. Donc on en pourra importer du gaz d'ailleurs. Donc c'est un peu terminé quand même cette histoire. Moi, je caricature et je provoque un peu, mais je pense que la crise énergétique, elle est presque derrière nous.
La crise physique.
Physique. Qu'est-ce qui aujourd'hui est en train de faire peur à tout le monde et qui fait, à mon avis, baisser l'euro et faire monter le gaz de 30%, parce que Nord Stream soit fermé pendant 3 jours et rouvre pas, on l'avait, et encore une fois, on s'en fout un peu de Nord Stream désormais. Là aussi, je grossis le trait. C'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'acteurs de l'énergie qui sont pas loin de faire défaut. Parce qu'il y a des appels de marge qui sont plus capables de régler, qu'il y a des banques qui veulent plus forcément les financer parce que, c'est des acteurs très fragilisés.
On a vu ça notamment dans le nord de l'Europe.
Exactement.
Hein,
donc, on a vu la Suède, les États baltes qui sont en train de donner des lignes de crédit. On a vu Uniper en Allemagne. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs, Il y a même la une du Financial Times ce matin qui parle d'un moment Lehman pour des acteurs de l'énergie. Donc, ce qui fait un petit peu peur et ce qui explique que l'euro baisse parce que on va avoir une hausse probablement de la Banque Centrale Européenne de 60 75 points de base jeudi. Elle n'a jamais fait ça de son histoire, à part au tout début pour des histoires techniques. Je sais bien, j'y étais. Là, c'est la première grosse hausse qu'on va avoir. Ça devrait soutenir l'euro. Donc, ce qui fait flipper un peu, c'est qu'on se dit, tiens, il y a peut-être des acteurs d'énergie qui vont baisser. Donc, je pense que c'est, on a
et,
passé.
Et là, on parle de entre guillemets de petits acteurs nordiques, etc. Mais par exemple, EDF, la semaine dernière, a dû sortir, je crois, 8 milliards de son porte-monnaie pour.
Oui,
pour
bien
ce
sûr,
genre de paiement.
Et puis, regardez les acteurs allemands, c'est pas des.
Et heureusement
acteurs,
qu'ils les avaient.
On part des lignes de plusieurs dizaines de milliards, enfin, non pas de dizaines, mais en tout cas, double digit, à deux chiffres quand même. Donc, non, c'est pas complètement neutre. Et là, il y a toute une imbrication du système financier. Donc, là aussi, je pense qu'on se fait peur, etc. Mais ce qui explique aujourd'hui que le prix du gaz part hyper à la hausse et qu'on soit plus bas sur l'euro, à mon avis, c'est plutôt tout d'un coup une nouvelle dimension de cette crise qui est plutôt les acteurs qui pourraient être fragilisés et donc le système qui le finance, les banques, etc. Encore une fois, je pense qu'on joue un peu à se faire peur.
Bon. Il y aura un quoi qu'il en coûte là-dessus aussi. Hein. EDF nationalisé, enfin, s'il faut, ces acteurs-là seront nationalisés. Alors tout ça, ça va gréver les budgets des États. Mais on n'imagine pas effectivement. Dépôt de bilan de tous les acteurs énergétiques. Enfin, s'il faut, c'est les États qui reprendront.
Oui, puis on voit bien les Abal qui mettent 10 milliards, l'Allemagne qui met de l'argent, qui nous a annoncé 60 milliards, 65 milliards de plans d'aide, etc. Donc on a une aussi, je pense, le risque systémique, pour moi, il est très limité.
C'est bien qu'ils mettent 65 milliards aujourd'hui, mais ils ne les avaient pas mis auparavant, alors que, par exemple, chez nous, on a mis quoi, 50
Pour l'instant, 25.
Oui, mais au total.
Oui, bah au total, ça fera sûrement 5 ans d'ici la fin de l'année.
Et on est moins nombreux que les Allemands.
Voilà, exactement. Non, grosso modo, les Allemands se
réveillent. On fait pareil, quoi.
Voilà, ouais, hein, voilà. Tout le monde fait un peu la même chose.
Pour une fois, on n'est pas en retard.
Oui, exactement.
Bon. Malgré tout, vous employez l'expression « quoi qu'il en coûte », c'est un peu aussi le discours des banquiers centraux. Et là, Jean-François nous parlait des 75 points de base qui arrivent. Ils sont déterminés, ils l'ont dit à Jackson Hole et on va l'avoir dans les faits, à tenir leur resserrement.
C'est intéressant parce qu'en fait, on va remonter à 2008, mais peut-être un peu avant. Hein, en fait, on considérait qu'il n'y aurait plus jamais d'inflation. D'ailleurs, alors nous, ce n'est pas notre cas, mais les jeunes qui sont là depuis moins de 20 ans, ils n'ont pas connu, ils ne savent pas ce que c'est que l'inflation, puisque ça fait quasiment 30 ans qu'on est en déflation. Donc, il y a quelques années, on disait l'inflation, c'est fini, pour deux raisons, principalement. La démographie, parce qu'on a une démographie globalement déclinante dans le monde. On voit la Chine, hein, qui ne va pas tarder à inverser donc sa démographie. Et puis, la technologie qui fait que finalement, on va plus vite, on supprime des chaînes intermédiaires, etc. Et puis, quand même, troisième point, une question sociologique, c'est-à-dire les jeunes sont plus dans la possession, ils sont dans le partage, on veut plus de voitures, c'est un moyen de locomotion, etc. Donc tout ça, c'était, il y aura plus du tout d'inflation, donc les taux ne remonteront plus jamais, enfin ça, on l'a entendu quand même, hein. Les taux ne remonteront plus jamais, et de toute façon, les banquiers centraux, ils continueront à avoir des taux négatifs à l'infini, parce que de toute façon, c'est pas un problème, c'est eux qui achètent la dette, etc. Bon. Là, c'est quand même nouveau, c'est qu'il y a de l'inflation. Et le problème, c'est que l'inflation, elle n'est pas que par la demande. Si c'était que par la demande, ça serait facile. Hein, les bonnes vieilles méthodes, vous remontez les taux, la demande s'effondre, et puis l'inflation s'effondre, et d'ailleurs, vous rebaissez derrière. C'est que là, il y a quand même une inflation d'offres. Et donc, les banquiers centraux, ils pourront monter les taux autant que prévu. C'est pas ce qui va permettre, effectivement, de libérer du pétrole, du gaz, etc. Alors, surtout en plus que le pétrole, ça va pas dans le bon sens, parce que l'OPEP se dit, les banquiers centraux veulent ralentir la demande. Bah, moi, je vais aussi resserrer l'offre de manière à ce que le prix du pétrole ne descende pas sous les $100. Donc, vous avez effectivement des banquiers centraux qui ont changé de discours. C'est quoi qu'il en coûte. Avant, c'était quoi qu'il en coûte la récession. Maintenant, c'est quoi qu'il en coûte l'inflation au risque, et même pas au risque, avec la volonté de provoquer une récession pour refroidir l'économie et pour faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas une récession encore plus profonde. Parce que les phases de récession énormes, elles sont venues après des phases d'inflation très souvent. Donc, ils ont pris peur et ils essayent, en tout cas, à défaut de le faire, parce que je ne sais pas s'ils iront aussi loin que ce qu'ils nous disent, mais en tout cas, ils veulent ancrer les anticipations d'inflation auprès des entreprises, des ménages, des particuliers, parce que si derrière vous laissez entendre que l'inflation va continuer à 10% pendant 10 ans, ben vous avez ce qui est le cœur, enfin 10% pendant 10 ans, on ne sait pas, mais il y a la moitié ou en tout cas 10 pays de la zone euro qui sont à plus de 10%. Mmh. Si vous ancrez ça dans la tête des acteurs, ben vous, salariés, vous demandez immédiatement les 10% pour rattraper l'année passée et pour anticiper sur l'année suivante. Donc, ils sont obligés d'avoir un discours très, très agressif, quoi.
Comment vous voyez les banques centrales, justement, cette volonté de tuer l'inflation?
Je crois que les banques centrales sont dans un moment quand même de qu'on n'attendait pas. Moi personnellement, je pensais pas qu'elles seraient aussi au quiche, prêtes à tuer la croissance pour lutter contre l'inflation, parce que je partage complètement le point de vue. C'est qu'aujourd'hui, l'inflation, encore une fois, l'inflation en Europe et encore en France pareil, deux tiers de l'inflation, c'est l'énergie plus un peu l'alimentation, mais c'est surtout de l'énergie. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui va faire baisser l'inflation plus que la banque centrale, elle peut monter les taux tout ce qu'elle veut. Encore une fois, c'est plutôt ce qui va être décidé du découplage du prix de l'électricité, des prix du gaz, du nombre d'éoliennes qu'on va réussir à brancher rapidement et de centrales photovoltaïques et de la réparation des centrales nucléaires. C'est beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, ce qui fait finalement l'inflation et aux États-Unis et en Europe, c'est plutôt ce que font les gouvernements. Ce qui change, je trouve, entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, le budget, les déficits publics sont fortement réduits. Donc il y a beaucoup moins d'aide publique aux consommateurs américains désormais. On a 8 points de PIB de moins. Donc c'est ça qui fait que pour nous, on va avoir une récession, une croissance américaine plus faible cette année qu'en Europe, l'année prochaine plus faible qu'en Europe, etc. C'est parce que le budget est très fortement resserré aux États-Unis. En Europe, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, on est dans un truc complètement schizophrénique où la Banque centrale dit « il y a de l'inflation, il faut absolument que je monte les taux pour calmer le jeu et baisser la demande, et notamment la demande d'énergie. » Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement qui subventionne à plein les énergies fossiles. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. Quand on baisse de 30 centimes les prix du gasoil et de l'essence, bah, en fait, on subventionne les énergies fossiles. Donc, on a deux acteurs qui font complètement l'inverse. Et je crois que ce qui va déterminer finalement l'inflation, c'est moins de tuer la demande comme faudrait que le fassent les banques centrales. C'est pas très efficace et très dangereux. Je pense que c'est plutôt ce qui va se passer sur le prix le marché de l'énergie et sur le prix de l'électricité.
Juste, cette banque centrale européenne, je vous fais un scénario que j'ai lu dans une note d'un de vos petits camarades. On remonte de 75 points de base et le lendemain, l'euro continue sa glissade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la BCE n'a plus de crédibilité ?
Non, mais ça veut dire que la détermination des cours de change, c'est pas uniquement sur les taux d'intérêt. Hein. Enfin, c'est très compliqué d'évaluer, sinon ça se saurait. Enfin, si on faisait un différentiel. Le fait, effectivement, quand même, il y a un différentiel en faveur du dollar. Donc ça joue, mais il n'y a pas que ça. Il y a les échanges, il y a la monnaie de réserve. Dans toutes les crises, le dollar, ça reste quand même un refuge. Bon, et puis là, quand même, on rappelle que la guerre, elle est sur le sol européen, que la centrale nucléaire, qui a deux doigts d'exploser, elle est à quelques kilomètres de l'Europe. Bon, donc à un moment donné, voilà, il y a le différentiel de taux, et puis il y a la valeur refuge. C'est pas l'euro qui baisse d'ailleurs, c'est le dollar qui monte, hein, d'ailleurs. Donc, enfin, l'euro baisse, mais en plus le dollar monte contre toute devise. Alors à un moment donné, mais bon, vous savez, les devises, franchement, faut être très humble parce qu'il y a des choses en coulisses qui se passent et on ne sait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des parités, enfin il y a des parités qui font que ça déplaise à tout le monde. Les États-Unis, ils ont peut-être pas envie d'avoir un dollar contre euro à 0,80 parce que ça pose des problèmes. Nos exportateurs sont relativement ravis, hein, de la chute de l'euro. Mais à un moment donné, enfin, moi, je n'irai pas parier contre l'euro, même si c'est plutôt en Europe qu'il y a des problèmes.
Je crois que ce qui explique bien l'euro en ce moment, encore une fois, c'est des histoires plus systémiques. C'est-à-dire que le différentiel de taux, c'est comme ça qui, à court terme, en général, drive les marchés d'échange. Là, ce qu'on voit bien, c'est que la BCE a dit, bon, au minimum, elle fera 50 et peut-être 75. Nous, on dit plutôt 75. Mais qu'est-ce qu'on dit sur la réserve fédérale américaine ? Au minimum 50 et sans doute 75, et nous, on dit 75. Donc, à la fin, le différentiel de taux joue plus trop parce que tout le monde est en train de monter, d'accélérer la courge à l'échalote. Aujourd'hui, ce qui, à mon avis, fait baisser l'euro, encore une fois, c'est l'histoire de la crise énergétique qui est beaucoup plus européenne qu'américaine. Hein. On paie notre gaz 10 fois plus cher que les Américains. Donc, c'est vraiment très, très, très européen. Et puis, deuxième chose, on a des risques. Les élections italiennes le 25 septembre, avec des alors plus ça va, plus mettre de l'eau dans son vin, Georgia, mais quand même, on a ce risque que vu par l'extérieur, par les non-européens, comme un risque systémique d'Italie exit, de remise en cause, de crise souveraine qui va peut-être revenir au moment où la Banque centrale monte ses taux, blablabla. On a déjà connu tout ça, mais en tout cas, ça pèse sur l'euro.
Bon, donc pas de vrai problème de crédibilité de la banque.
Non, je crois pas. Non, je crois pas du tout. D'ailleurs, je partage complètement ce qu'il a dit. L'euro ne baisse pas contre les autres devises. C'est le dollar qui est très 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 fort. Mais comme tout le monde, quand on regarde contre sterling, contre yen, contre yuan, l'euro s'apprécie grosso modo depuis quelques mois. Donc il y a pas de sujet.
Bon, il nous reste 4 minutes. Ça va peut-être être un peu short pour tout dire, mais qu'est-ce qu'on pense de la Chine ? Période particulière, on s'approche du Congrès, il y a des trains de mesures qui sont mis en place sans que ça semble vraiment convaincre tout le monde. Le marasme économique continue. Alors, Eric ?
Il ne se passera rien d'ici 2-3 mois parce que Xi Jinping ne peut pas se permettre autre chose qu'une Chine qui tourne à peu près. Or déjà, enfin, ils ont pris des risques. Enfin, ils ont pris des risques économiques avec leur politique zéro Covid. Hein, c'est quand même quasiment les seuls à faire ça. Donc ils cloîtrent à tour de rôle une partie de la population. Ça pèse quand même sur la croissance. Et la croissance chinoise, elle est quand même loin des taux qu'on avait connus les dernières années. Enfin, c'est fini, le 10, hein, on ne le verra plus. Le 5, on risque de pas le voir non plus. Et on va attendre vers une croissance de 3%, finalement, comme beaucoup de pays. Donc ça, c'est un problème. Xi Jinping, normalement, il va être réélu, je ne sais pas si on peut employer ce terme, reconduit. Et puis derrière, c'est une économie qui va ralentir, qui fait face à un problème démographique maintenant énorme. Enfin, vous ne pouvez pas faire autrement avec la politique de l'enfant unique qui a été mise en place pendant des années. En revanche, ce à quoi je ne crois pas, mais enfin, je ne suis pas politologue, c'est Taïwan, en tout cas pas aujourd'hui. Voilà. Les Chinois sont pragmatiques. Ils n'ont pas encore la puissance économique et militaire pour prendre ce risque-là. Je ne crois pas. Alors, peut-être que je serai démenti dans 6 mois. Mais là, je crois aussi qu'on se fait peur en voulant faire un parallèle avec la Russie.
Alors nous, on est très inquiets, très préoccupés depuis un moment sur la Chine. Hein. On est à 3% de croissance, donc on ne croit pas du tout à l'objectif de 5,5% de Xi Jinping. Ce qui nous gêne un petit peu en ce moment, c'est que on ne voit pas trop d'où peut revenir la reprise en fait, annoncée. Alors on fait des plans de relance, très bien, mais à partir du moment où vous êtes en train de reconfiner des gens dans un certain nombre de
grandes villes, ouais.
Voilà, de grandes villes et de régions chinoises, que de nouveau Shenzhen est concerné, sachant que la Chine en plus de ça a des énormes problèmes d'électricité, c'est-à-dire que c'est pas la guerre en Ukraine, c'est que 20% de leur mix énergétique vient des barrages hydrauliques, que les fleuves sont à sec, donc ils sont obligés d'arrêter aussi des chaînes de production, donc c'est aussi le début des conséquences du réchauffement climatique dans des pays comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils importent aussi, ils essaient d'importer de l'énergie, notamment de la Russie. Mais donc la production industrielle est très impactée et par le Covid, et on ferme des villes, on ferme 21 millions de personnes qui sont de nouveau en confinement. Pékin, on a des restrictions à peu près partout. Shenzhen, ça recommence. Donc la zéro Covid, ça ne marche pas. On sait bien que si on ne veut pas fermer les économies, il faut apprendre à vivre avec le virus. Or, la zéro Covid, c'est l'inverse de ça. Donc ça ne marche pas. Et donc tant qu'ils maintiennent ça, la production industrielle sera impactée. La consommation des ménages, la consommation privée est hyper impactée aussi. Quand vous êtes dans un magasin, vous avez vu les images, Ikea, qui ont dit attention, il y a un cas, on ferme tout le monde venez là, on va vous enfermer dans des entrepôts. Évidemment, tout le monde ne part en courant, il n'est pas prêt de retourner dans un Ikea s'il y a des cas de Covid. Or, il y a des cas de Covid partout en ce moment, très peu nombreux, mais un peu partout diffusés. Donc la consommation n'est pas là. Et quand vous regardez les exportations chinoises, énorme problème, puisque les États-Unis ralentissent fortement, l'Europe aussi, etc. Donc il y a un vrai sujet, et le moteur des infrastructures, hein, il faut qu'il fasse plus de 20% de dépenses d'infrastructure, on est à 3-5% maximum. Donc, ils n'y seront pas aux 5%. Grosse inquiétude. Et sur l'immobilier, on voit des défauts quasiment tous les jours. Donc, moi, je dis grosse méfiance sur la Chine. Il est grand temps de ne pas y retourner pour l'instant.
Jean-François Robin pour Natixis et Eric Turgeman pour Ofi AM. Merci à tous les deux d'avoir participé à ces regards croisés sur les grandes données qui font bouger les marchés, qui les font bouger pour le moment plutôt à la baisse. On perd quasiment 2%, 6046 points. Qu'en disent nos traders? On va voir Andrea Twini dans un instant. On le retrouve chez Saxo Bank où il suit la séance pour nous. Et puis vous n'oubliez pas bien évidemment les replays qui vous attendent sur le site ou sur nos plateformes partenaires. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
On file sur les marchés pour entamer cette deuxième heure de l'émission à 11h30. C'est un trader qui suit pour nous la séance du jour. Et c'est ce matin Andrea Twini chez Saxo Bank. Rebonjour Andrea. Bon, pour le moment, on a l'impression que la résistance s'est bien organisée sur les 6000.
Ouais, on tient sur les 6000 et c'est peut-être le seul aspect positif qu'on peut retenir de cette première matinée de la semaine sur le CAC. On a eu un début de séance assez compliqué, on a perdu plus de 2%, on se ressaisit légèrement mais ça reste quand même assez fragile hein, pour le moment. On n'a pas de signaux très clairs de rebond sur le marché, il faudrait repasser pour au-dessus des 6150 points pour avoir peut-être une embellie ou en tout cas voir les choses de manière un petit peu plus positive sur le CAC. Pour le moment, on est plombé par cette crise énergétique en Europe et par l'arrêt, encore une fois, du gazoduc Nord Stream 1, donc qui a été arrêté vendredi dernier suite à une nouvelle fuite. Et donc, il y a toujours cette question vraiment de l'approvisionnement en gaz et des prix énergétiques qui perturbent le marché parce que ça a des conséquences à la fois sur les prix et donc un risque d'inflation, mais aussi du coup économique avec ce risque de récession. Et pour le moment, l'Europe est particulièrement impactée, évidemment plus que les États-Unis. Et on voit un impact très net sur les marchés. Alors bon, il n'y aura pas beaucoup de volume a priori aujourd'hui parce qu'on aura l'absence des investisseurs américains. Les futurs restent ouverts aux États-Unis. Ils sont d'ailleurs orientés de manière un petit peu moins négative que sur les marchés européens. Mais on n'aura pas de cash. Donc tout le marché action sera fermé et donc du coup les volumes devraient être un petit peu plus faibles. En catalyseur, c'est évidemment, donc je l'ai dit, les prix énergétiques. Et donc on va suivre plusieurs rendez-vous cette semaine. On aura notamment en fin de semaine un sommet sur l'énergie en Europe où des décisions pourraient être prises pour justement contrer ces effets négatifs des prix énergétiques. On aura aussi une réunion de l'OPEP autour justement de la production de pétrole qui pourrait avoir un impact également sur les prix. On voit des prix du pétrole qui rebondissent légèrement d'ailleurs. Donc il faudra aussi surveiller ces deux aspects-là. On aura la réunion de la Banque Centrale Européenne qui pourrait être entre guillemets un non-événement parce que le marché est déjà préparé à une annonce de la Banque Centrale Européenne. Mais il faudra donc quand même suivre ce rendez-vous et voir si on aura éventuellement des surprises, même si ce n'est pas le scénario privilégié. Mm-hmm. Donc voilà, pour le moment, on devrait rester sur une tendance, une dynamique quand même plutôt négative sur le CAC. On a une zone de support autour des 5925, 5945 points si on venait à casser les 6000 points. Et puis sinon, il faut encore une fois repasser au-dessus des 6150 pour espérer une embellie ou en tout cas voir les choses de manière avec un regard un petit peu plus positif sur un marché qui est assez déprimé pour cette première séance de la semaine.
Malgré tout, vous nous parliez de cette Banque Centrale Européenne. Inévitablement, on se tourne aussi vers l'euro. Comment est-ce que vous le voyez évoluer, vous? Quels sont les supports qui ont trait, enfin qui devraient avoir trait à cette réunion de la Banque Centrale?
Pour le moment, la tendance elle est déprimée aussi sur l'euro. On a même cassé les 0,99. Donc là, on est revenu autour de ce niveau-là. Donc il y a un jeu qui se fait autour des 0,99. On pourrait glisser jusqu'à 0,98-35,50. C'est une zone de support à surveiller. Et puis sinon, pour espérer pour que les choses aillent un petit peu mieux, il faudrait au minimum repasser au-dessus de la parité. Mais c'est vrai que ça semble être un défi aussi pour la Banque Centrale Européenne de réussir à relever un petit peu le niveau de l'euro. Pour le moment, malgré les anticipations du marché et le fait qu'on price, bien sûr, une augmentation des taux de la Banque Centrale Européenne, on voit que la tendance elle reste extrêmement fragile par l'euro. L'euro qui lui aussi pénalisé par cette crise énergétique et les répercussions économiques qu'elle peut avoir, et notamment le risque de récession qui est assez fort en Europe. On le voit d'ailleurs dans les derniers indicateurs macroéconomiques, encore ce matin avec le PMI des services qui est en zone de contraction, qu'on a une tendance fortement déprimée, une tendance économique qui est déprimée en Europe. Et ça a un impact négatif sur l'euro aujourd'hui qui peine à retrouver la parité et qui du coup a un risque de basculement sur des niveaux plus bas. Et notamment, j'ai cité la zone 98-35-50 qui peut être un objectif à court terme.
Merci beaucoup, Andrea. Andrea Tony, Saxo Bank, qui nous accompagnait ce matin. Le CAC qui perd 1,76%, 6058 points. L'eurodoll qui pointe à 99,11.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Frédéric Lorenzini, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour Patrimoine 24, il y a un auditeur qui vous demande ce qu'il faut penser d'un nouveau fonds qu'il a trouvé, le Carbinac Grandchildren.
Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ce fonds Carbinac Grandchildren? C'est un fonds géré, comme son nom l'indique, par la société Carbinac. C'est pas un fonds nouveau, il a été créé à l'été 2019. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il vient de fêter ses 3 ans. Ça, c'est important parce que ça permet d'avoir un petit peu de visibilité, de track record. C'est un fonds action international, avec un portefeuille concentré, 43 lignes. C'est peu pour un fonds action international. C'est assez dans le style Carmignac, c'est assez emblématique de ces gestions de conviction qui veulent sortir un peu des sentiers battus.
C'est quoi le thème d'investissement de ce fonds petits-enfants?
Parce que c'est grandchildren, c'est petits-enfants. Alors c'est un fonds qui, selon le promoteur, ambitionne de traverser le temps et de traverser les générations. Ça veut investir dans des sociétés de qualité qualité. Alors, qu'est-ce que c'est une société de qualité selon Carmignac? Ça se regarde en termes d'endettement, en termes de marge. Hein, on veut des sociétés qui ont de belles marges, des sociétés qui réinvestissent. Et puis, ça se regarde en termes de pouvoir de tarification. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de tarification? C'est ce que les anglo-saxons appellent le pricing power. C'est le fait que vous n'ayez pas trop de concurrents et que vous puissiez préserver vos prix de vente. Et donc, si vous préservez vos prix de vente, ça permet de préserver vos marges. Et ça, pour avoir du pricing power, il faut avoir une société soit très innovante, puis de l'innovation qui tient la route, ou avoir, ou les deux, une marque suffisamment puissante.
Quand
vous appelez Apple, les gens ont envie d'acheter votre produit parce qu'il y a le logo Apple dessus, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça, les sociétés de qualité.
Alors, qu'est-ce qu'on a, par exemple, comme société ?
Ouais. Alors, on a des noms connus. Je pense, par exemple, à Microsoft, qui rentre dans ce que Carmignac appelle les sociétés de qualité, ou des sociétés comme Mastercard. Il y a des noms moins connus. Il y a un des leaders mondiaux de la santé animale, Zoetis. Et puis, il y a des noms vraiment que moi, je ne connaissais pas. Au Danemark, Ørsted, c'est historiquement une société qui faisait de l'énergie à base fossile, et puis qui s'est mis maintenant sur les énergies renouvelables. C'est un des leaders mondiaux là aussi. Grosso modo, pour aller vite, sur ce portefeuille qui a 3 ans, qui est encore petit, on trouve essentiellement beaucoup, quand même, il y a un tropisme sur les sociétés nord-américaines.
Alors, vous nous dites 3 ans, ça permet donc de commencer
de regarder
à regarder un peu les résultats, non ?
Alors, ce fonds est noté 4 étoiles tant chez Morningstar que chez Cantalys, donc ça, c'est une information importante. Sur 3 ans, selon Morningstar, ça fait 9,85 par an, 9,85 par an sur 3 ans. Bon, la réalité, c'est que c'est à peu près en ligne avec la moyenne de la catégorie. On l'a dit, c'est un fonds action internationale, grande capitalisation, il fait un peu mieux que la moyenne de sa catégorie, mais pas tellement, year to date, c'est-à-dire depuis le début de l'année, il fait moins 19%, presque moins 20%. En même temps, c'est vrai que c'est une période qui est un peu particulière.
Ouais,
bon, c'est pas ébouriffant.
Et du coup,
est-ce qu'on y va? Alors, c'est vrai que la signature Carmignac est une signature qui reste prestigieuse. Bon, mais grosso modo, ça reste un fonds action internationale. Il y en a quand même beaucoup sur le marché. Les performances sont pas ébouriffantes. Moi, je vois pas pourquoi demain, ça se mettrait à casser la baraque. Donc, je pense pas qu'il y ait de raison de se précipiter pour aller sur ce fonds.
Frédéric, voilà. Lorenzini et Patrimoine 24, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce monde de la gestion collective, à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et régulièrement, on se penche sur vos questions. À bientôt, Frédéric.
À bientôt.
Le marché parisien qui en ce moment perd du terrain, moins 1,78. Mais on a limité les dégâts puisqu'on a préservé les 6000 points, 6057 points à l'heure actuelle.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions, ce matin, on retrouve Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu et Stéphane Van Uffel pour Net Investissement. Prêt, messieurs ?
Et prêt, prêt.
Rebonjour, prêt.
Prêt. Bon. Corentin vous interroge. Il a 26 ans, Stéphane et Christian, et il souhaite ouvrir un PEA. Et il se demande quel courtier, Christian, vous lui conseilleriez pour débuter avec un portefeuille de moins de 5000 euros.
Alors d'abord, bravo à Corentin. C'est vrai que le marché recule aujourd'hui, puis il recule depuis le début de l'année. Non, il s'intéresse quand même à la bourse et il a bien raison, parce que ça demeure le placement le plus rentable sur le long terme. Alors, il veut ouvrir un PEA, donc il faut croire qu'il doit avoir son domicile fiscal en France et qu'il remplit sa propre déclaration de revenus. On pense bien sûr, naturellement, vu son âge et vu qu'on aime bien aussi au revenu parler des nouveautés, on pense bien sûr à tous les néo-brokers étrangers qui sont arrivés sur le marché ces dernières années, de Giro, Trade Republic, Itoro. Alors, c'est vrai qu'au niveau tarifaire, ils sont imbattables. Au niveau technologique, j'en parlerai tout à l'heure. Mais la plupart ne donnent pas forcément accès au PEA ou au SRD. Le Corentin, pour choisir un bon courtier, vous devez bien sûr regarder la politique tarifaire, mais vous devez regarder aussi la qualité de la plateforme de passage d'ordre. Et surtout, vous devez vous interroger sur quel type de produit vous voulez travailler aujourd'hui, mais dans l'avenir. C'est-à-dire des produits plutôt de type spéculatif, varant, options, CFD. Plutôt donc des titres en direct, français ou étrangers. et plus ou plutôt donc on aura des fonds d'investissement et dans ces cas-là bien sûr vous choisirez un courtier qui offre donc une large palette de fonds avec 0% de frais d'entrée. Quoi qu'il en soit, Bourse Directe, bien sûr, est un acteur incontournable, un acteur de taille avec des tarifs compétitifs, notamment pour les petits ordres et les investisseurs très actifs, avec, je dirais, des portefeuilles parfois très importants et des investisseurs satisfaits. Une offre donc d'assurance vie récente. Alors, ceci dit, au revenu, on préfère les établissements 100% en ligne qui ont une offre d'épargne plus large. Donc, banque au quotidien aussi, livret, crédit. Mmh. Et puis, bien sûr, qui propose un contrat d'assurance vie, trop fédor du revenu, donc plutôt Fortuneo ou Boursorama.
Justement, qu'est-ce qu'on pense de ces néo-brokers ?
Ah, les néo-brokers, j'ai dit tout à l'heure, côté tarifaire, ils sont à ma table. C'est vrai que du côté des plateformes de passage d'ordre, on est clairement impressionné par la technologie et la technologie séduit. Ce sont des sites qui sont conçus pour passer vos ordres depuis un mobile. Et c'est vrai qu'on est plus proche du gaming. Alors, c'est très, très ludique. Hein, l'ergonomie est nickel. On est plus proche du gaming que de la banque traditionnelle à papa, quoi. Alors, donc tout ça est positif. Attention tout de même aux effets négatifs de l'Internet mobile. C'est-à-dire que c'est tellement facile d'acheter et de vendre de l'Apple ou votre titre favori qu'on peut être incité à multiplier les opérations.
Donc d'occasionner des frais.
Et d'occasionner des frais indirects. Et puis, sur le long terme, on voit que la multiplication des opérations est souvent préjudiciable à la performance. Alors, la question de Corentin portait aussi sur le PEA. Il faut savoir que ces acteurs étrangers souvent ne donnent pas accès au PEA. Il faut savoir aussi qu'ils ne publient pas d'IFU, donc d'imprimé fiscal unique. Donc ça va être à vous de calculer votre plus-value et votre moins-value à la fin de l'année. Donc courage, c'est pas forcément évident. Ensuite, il faut savoir que ces établissements n'envoient pas forcément des documents fiscaux à l'administration fiscale française. Ça veut dire que lorsque vous recevrez votre déclaration de revenus, elle ne sera pas pré-remplie. Bon, voilà. Donc ça, c'est des points à regarder. Il faut aussi regarder, qu'est-ce qui se passe en cas de faillite de l'établissement étranger. Est-ce que c'est le fonds de garantie des dépôts français ou étrangers qui s'applique? Voilà. Mais en tout cas, ce qui compte, Corentin, c'est un petit peu de vous projeter dans l'avenir, d'essayer de voir quels sont les titres ou le type de produit que vous pensez travailler d'ici 4 ou 5 ans. Okay. Encore une fois, parce que c'est moins les titres que vous allez travailler ou les supports que vous allez travailler aujourd'hui qui doit déterminer le choix de votre plateforme. Donc il y a un vaste choix de professionnels 100% en ligne. Encore une fois, au revenu, on recommande d'avoir deux banques, une banque, je dirais, traditionnelle pour la banque au quotidien et une banque pour son épargne, où on aime bien, là, pouvoir à la fois gérer ses crédits patrimoniaux, mais à la fois ses livrets bancaires, à la fois son assurance vie et à la fois son compte titre et son PEA. Mais pourquoi pas, il est jeune, il peut regarder bien sûr les néo-brokers étrangers.
Le digital et le patrimoine, c'est votre dada.
C'est difficile pour moi.
Qu'est-ce que vous diriez à Corentin?
Moi, je fais du digital, mais je suis un vieux modèle aussi. Donc, je dirais à Corentin, en substance, que Christian lui a dit, tous ces néo-brokers, toutes ces nouvelles plateformes, toutes ces marketplaces de solutions finalement boursière, ce qu'on ne pratique pas chez Net Investissement, parce que nous on fait de la gestion de patrimoine, on les encourage évidemment parce que c'est du digital, c'est une révolution, la technologie, l'innovation rend les choses aussi ludiques qu'un jeu vidéo, donc ça cible évidemment la génération X, Y, Z, ce que vous voulez. Maintenant, de temps en temps, d'avoir quand même une bonne vieille structure, ou même si ça ne reste qu'au téléphone, en visio, etc., etc., pour avoir quand même quelqu'un, un être humain qui peut aller un peu sur l'intuition, discuter et voir entre les lignes qui est Corentin, parce que c'est pas si simple de le faire tout seul devant son écran. Voilà, maintenant on est dans le monde de la décentralisation, on est dans le monde de la dérégulation, on le voit avec les crypto-actifs. Donc Corentin a 26 ans, j'ai envie de vous dire, le risque qu'il prend, après à un moment donné, il doit le prendre, 5000 euros, c'est le moment, voilà.
Voilà, Corentin, quelques éléments de réponse. Question de Julia. Canicule, réchauffement climatique, etc. Comment limiter notre impact énergétique et environnemental lorsqu'on investit? Et du coup, que choisir comme type d'investissement?
Évidemment, c'est le grand sujet. C'est
le green.
Le grand consensus depuis plusieurs années. Donc, les critères ESG, environnement, social, gouvernance et l'investissement
socialement responsable. Alors, moi, j'aime bien être concret sur ces questions-là. Et Julia, je vais essayer de vous donner des biais un peu différents. Je vais juste faire un tout petit rappel. Il faut faire attention parce que là, l'ultra-labellisation, et on l'a vu, hein, les pouvoirs publics l'ont saisi, puisque maintenant qu'on a tout labellisé et que tout le monde est ISR, on va se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire d'être ISR pour de vrai. Et on va commencer à aller fouiller. Parce que finalement, juste là, c'était, je le caricature, déclaratif. Donc vous disiez que vous le faisiez, donc on vous laissait tranquille. Maintenant, les autorités de tutelle commencent à fouiller et on va aller regarder si c'est une réalité parce que les marchés étant fluctuants, les portefeuilles sont fluctuants, les proportions de ceci, les proportions de cela peuvent changer et vous vous retrouvez à ce moment-là potentiellement exclu du label. Donc, premièrement, Julia, on regarde ce qu'on veut faire. D'abord, première chose, c'est quel est le sens que vous voulez donner à votre investissement, qu'il soit environnemental, social, etc. C'est vous qui faites le sens. Après, si vous avez envie, intéressez-vous juste aux critères ESG qui sont la base depuis 100 ans de ce qui est l'ISR, et à ce moment-là, vous allez très vite comprendre qu'on ne fait pas peut-être des vieilles matières premières, etc., etc. On ne fait pas d'armes, on ne fait pas de choses comme ça, et c'est très simple de pouvoir investir vous-même dans des choses qui sont tournées finalement vers les nouvelles technologies pour sauver notre planète. Alors maintenant, plus concret, je vous donnerai deux exemples, un exemple accessible et puis un exemple pour une cible de clients un peu plus élevé, parce que moi j'aime bien travailler là-dessus. Vous avez un FCPR, donc Small Capital, qui est un partenaire de notre investissement, un FCPR éco-responsable. À quoi ça sert de passer par un produit comme ça? C'est à partir de 1000 euros. Donc là, c'est un peu la nouveauté. C'est une société qui est dans le sud-est, 20 ans d'existence, 1 milliard sous gestion, 400 entreprises accompagnées en financement. Mmh. Donc ils connaissent. L'idée de passer par ce FCPR, c'est qu'évidemment, leur structure de picking va être sans doute, et je ne connais pas Julia et je ne veux pas lui faire offense, un peu plus pointu, parce qu'en fait, ils savent faire. Ils vont trier à la fois sur des critères purement financiers, où en est la société, développement, transmission. Si vous connaissez le cible, je refais pas le schéma. Mais ils vont aussi ensuite travailler sur des critères excluants, qui en font un des premiers fonds de private equity totalement couverts par les critères ESG. Et donc, ils vont pouvoir financer du médical, ils vont financer de l'immobilier intermédiaire pour loger des gens en social, etc., etc. Donc, on est sur de l'investissement. Ils connaissent très, très bien leur secteur, le sud-est de la France. Ils investissent évidemment à Paris également. Donc, on donne du sens avec une rentabilité visée sur ce fonds quand même de 7%. Donc, attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et un petit plus, alors je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai envie de vous dire, allez voir les équipes de Small Capital ou venez sur notre investissement. Mais en plus, ils ont un petit mécanisme de calcul financier qui permet de couvrir pour tous les détenteurs de parts une partie du capital qui est de 30% sous forme de produit de couverture. Donc c'est un bon investissement. Maintenant, pour les profils qui nous écoutent, parce qu'il y en a, et qui ont 100 000 euros minimum, qui peuvent faire un fonds, un FPS, comme on le dit. Mm-hmm. Aujourd'hui, je vais vous conseiller l'enveloppe du groupe Axipit, Axipit Home Value 2. J'avais parlé de la première enveloppe il y a un an et demi. Là, on est dans du pur immobilier. Donc là aussi, ça parle aux gens. On donne du sens. Ils ont déposé leur dossier pour un label ISR sur cette deuxième enveloppe. La première, la U. Et en fait, très simple, le process, j'achète, je revalorise et je cède avec un turnover de portefeuille quasiment exclusivement sur Paris, banlieue parisienne proche, et le centre des villes moyennes. Donc on est sur un fonds d'investissement qui vous permet évidemment, si vous avez des problématiques de cession d'entreprise, d'avoir le 150-0 BTR, le fameux. Il n'y a pas d'IR si vous détenez vos parts au-delà de 5 ans. Prélèvements sociaux, évidemment, on est en France. Et là, on est sur un produit dont la première enveloppe s'est très très bien comportée en rendement et avec un actif qui peut peut-être dépasser son objectif de rendement de 7%, parce que ça n'échappe à personne. On loge des gens, on réhabilite de l'immobilier qui vieillit, et on est dans le truc en ce moment, c'est un vrai sujet avec ce qui va arriver sur les passoires énergétiques. Et en plus, on a la possibilité de laisser faire ça à des professionnels.
Bon, je rappelle, parce que vous l'avez passé hyper rapidement, vous êtes un pro, le 150 OBTR, c'est un article du Code général des impôts.
C'est un pratique qui, sur une cession d'entreprise, des fruits de la cession peuvent être réinvestis, moyennant report de plus-value, évidemment, mais vous la paierez un jour, rassurez-vous.
Bon. C'est bien de mettre du vert dans son portefeuille.
Alors, c'est bien. Julia, elle pose une très bonne question, mais tout le monde se la pose. Donc, attention quand même aux effets de mode. Oui, il faut investir socialement responsable. Ceci dit, lorsque vous regardez les indices, on le dit pas assez, les indices boursiers depuis le début de l'année, les indices classiques, vous les comparez aux indices dits investissement socialement responsable. En fait, pour la première fois depuis de nombreuses années, en fait, vous constatez que les indices classiques surperforment les indices ISR. Ce que je veux dire, c'est oui, il faut donner du sens à son à ses placements. Vous pouvez regarder du côté. Alors il y a là, c'est plutôt le sur le plan environnemental. Vous pouvez le faire en investissant dans des titres en direct. Vous pouvez le faire en investissant via des fonds, actions cotées ou non cotées. Attention tout de même à ne pas y mettre l'intégralité de ses billes. Il y a des effets de mode. Il y a des bulles spéculatives. L'éolien, le solaire, ça a très bien marché une année. L'année d'après, donc alors ça chute, etc. Donc, oui, à titre de diversification, c'est sûr et certain qu'à moyen, long terme, dans la durée, vous serez gagnant, donc alors en misant sur des entreprises respectueuses de l'environnement, etc. Maintenant, pour être certain de ne pas investir au sommet d'une bulle, vous étalez dans le temps vos investissements, voilà. Et puis, vous savez que j'aime beaucoup, et puisque Stéphane, on aime bien être concret et pratico-pratique, je suis un fan de... des trackers ou des fonds d'investissement qui répliquent l'indice MSCI World. Donc vous avez un fonds qui réplique l'indice MSCI World classique, investi dans le 1600 valeurs de 23 pays. Puis vous avez des fonds qui répliquent l'indice MSCI SRI, donc qui est davantage un petit peu plus concentré, qui investit surtout donc dans des entreprises respectueuses de ces fameux critères. Je pense qu'il faut jouer un tout petit peu les deux fonds pour éviter ces phénomènes de mode. Mais votre question est très bonne et à long terme, Julia, vous serez gagnante.
SRI, tout le monde aura compris que c'était ISR en...
Investissement, oui.
En allemand. En allemand.
En allemand, voilà, c'est ça.
Hélène vend un appartement pense avoir 200 000 euros à placer. Se doter avec son mari, parce qu'elle nous dit nous aimerions toucher 1000 euros par mois pour compléter notre retraite. Nous avons des contrats à faire. Que nous conseillez-vous ?
Ben, Hélène, vous, donc manifestement, vous intéressez à l'assurance vie. Vous avez raison. L'assurance vie doit demeurer au cœur, donc, de votre stratégie patrimoniale. La question, sans doute, sous-jacente, c'est est-ce qu'il faut alimenter votre contrat à faire ou est-ce qu'il faut investir dans un autre contrat?
Alors. À hauteur, donc, de 200 000 euros.
À hauteur de 100 000 euros. Notre discours là-dessus est assez clair. Donc, oui à la diversification. Il faut toujours mieux investir dans plusieurs contrats primés par la rédaction. Mais il faut éviter aussi de s'éparpiller trop et de trop saupoudrer en pratique. Après ça, c'est ingérable, si vous voulez, si vous avez 10 contrats d'assurance vie. Alors, elle a 100 000 euros à investir. On peut penser, elle ne donne pas la valeur de son contrat chez AFR. On peut se dire qu'elle, par exemple, elle pourrait mettre 100 000 euros sur différents contrats. Ensuite, est-ce qu'il faut alimenter le contrat existant ou en ouvrir d'autres? Ça dépend un tout petit peu des sommes en compte aujourd'hui. Là, elle a un contrat traditionnel avec un bon fonds en euros. Elle peut soit se positionner sur des conservateurs Elios Sélection, épargne retraite de plus de FAPES Diffusion, ou alors, on en parlait tout à l'heure, vers des contrats qui sont distribués en ligne, souvent moins chargés en frais et qui donnent accès à une liste de fonds d'investissement de qualité. Mais Hélène, il faut le savoir que vous devez être autonome dans vos décisions d'investissement. Vous n'aurez pas en face de vous un professionnel du patrimoine qui confortera vos choix et qui vous donnera des idées précises d'allocation d'actifs, donc pourcentage à investir en fonds en euros ou sur les marchés boursiers en fonction de votre situation personnelle. Donc voilà, je dirais que tout dépend un peu de la somme qu'il y a sur son contrat à faire, mais en tout cas c'est un bon produit. Peut-être une astuce, comme elle souhaite des revenus complémentaires, elle pourrait peut-être conserver, donc là je dirais sur son compte bancaire ou sur des livrets, on va dire 1000 euros par mois, 12 000 euros, ce qui permettrait de ne pas toucher à son contrat pendant un an et de laisser son épargne capitalisée.
Des idées pour
Très rapidement, on ne connaît pas ce qu'il y a déjà sur le contrat à faire. Est-ce qu'il n'y aurait que les 200 000 euros ou est-ce qu'il y a aussi 200 000 euros, parce que ça change tout? Parce que sinon, ma chère Hélène, si vous voulez 1000 euros par mois pour compléter votre retraite net de frais et net de fiscalité, il va falloir aller chercher du rendement de façon assez agressive. Ou alors, faire un mix entre rendement et aliénation d'une partie du capital. Mais à ce moment-là, ce capital fond, mais comme on ne connaît pas sa situation, elle a peut-être autre chose à céder à ses enfants. Mais enfin, c'est tout à fait faisable.
Allez, il vous reste 2 minutes pour répondre à Julien, qui s'intéresse beaucoup à l'investissement en nue propriété et qui souhaite se tourner plutôt vers de l'immobilier en direct et non vers des SCPI. Et il nous précise qu'il a un petit peu de temps. Qu'est-ce que vous en pensez?
Très rapidement, parce que je voulais rentrer un peu dans le concret, évidemment, la Nupro, c'est une très bonne idée, parce qu'on acquiert finalement une partie d'un
produit avec une
vraie décote. Mm-hmm. Quand on fait de la SCPI, l'intérêt, c'est qu'on peut le faire sur 5, 7, 10, 12 ans, c'est un peu plus flexible. Évidemment, l'immobilier direct, moi, j'aime bien le conseiller, parce que ça vous permet d'avoir accès, pour un montant d'investissement moins élevé, à des produits qui peuvent être d'extrême qualité, a fortiori si vous n'avez pas de fiscalité et que vous ne voulez pas payer d'IFI, si c'est votre cas. Alors, je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple, évidemment, pour ceux qui payent une très lourde fiscalité et qui payent de l'IFI et qui veulent mettre, finalement, leur patrimoine à l'abri de ce coup de massue fiscale que le propriétaire foncier fait, c'est le groupe Pearl propose un produit de dingue à beau soleil, à 300 mètres de l'entrée du panneau Monaco. Donc là, je vous le donne en mille, le studio... La nue propriété, 61% de la valeur, commence à 215 000 euros. Donc évidemment, vous faites le calcul pour avoir la pleine propriété. On est sur une longue, un long démembrement, 18 ans. Mais c'est la CDC Habitat qui sera votre partenaire, qui aura l'usufruit pendant cette durée-là. Donc quelque part, c'est l'État. C'est un très très bon produit avec une très belle vue. On est sur du produit très chic, Côte d'Azur. Typiquement ce que j'aime, moi, dans un produit de démembrement en direct. Mais c'est premium. Maintenant, j'ai une petite dédicace pour mon camarade Cédric, parce que c'est très important. Si vous avez envie, parce que vous avez plutôt un profil classique, c'est-à-dire les clients de Net Investissement, vous pouvez investir dans Les Lumières, qui est un programme à viroflay. Et là, à ce moment-là, vous avez, et je ne vais pas dire à Cédric de faire l'élément, mais en gros, c'est un démembrement plus classique sur 15 ans, 64% la valeur de la nue propriété. Vous avez un organisme bien connu dans les Yvelines, de 1% patronal et de logement intermédiaire qui va garantir cet usufruit pour réunir la pleine propriété au bout de 15 ans. Pas de fiscalité, pas d'IFI, évidemment. Pas de gestion et le produit de très bonne qualité. Moi, j'aime beaucoup le démembrement direct.
Ah, je croyais que vous aimiez
vous
beaucoup
achetez du patrimoine. Non, mais vous achetez du patrimoine dans les endroits que j'aime bien. Bah, évidemment, si vous investissez à Viroflay, Le Chesnay, Versailles, etc., comme moi, je l'ai beaucoup conseillé puisque je suis de là-bas, évidemment, vous prenez pas trop de risques pendant 15 ou 20 ans.
Stéphane Van Uffel, Net Investissement. Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu répondait ce matin à toutes vos questions. Dans un instant, on retrouve Sandra Gandoin et 60 Minutes Business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric, vous allez bien?
Au programme aujourd'hui.
Eh bien, au programme aujourd'hui, on va parler des marchés dans le rouge, évidemment, de la parité également euro, dollar. La crise de l'énergie prend un tour décisif en Europe et on va en parler avec Antoine Larrigaudry et Jean-Marc Daniel. On parlera aussi de la grande favorite des conservateurs pour prendre la place à Downing Street. La succession de Boris Johnson, Liz Truss, est en passe de s'imposer. Les dossiers sont nombreux, on en parlera avec Sophie Loussouarn, spécialiste du Royaume-Uni. Et puis la sobriété énergétique encore et toujours, mais cette fois du côté des crypto-monnaies. Les acteurs des crypto-monnaies sont reçus demain à Bercy pour faire un peu leur bilan énergétique, proposer des solutions. On en parlera avec Faustine Fleuret, la présidente directrice générale de l'ADAN. Et puis on répondra à toutes vos questions, évidemment, à 12h30 avec Lorraine Goumeau.
60 minutes business à suivre. Sandra Gandoin, nous on se retrouve demain matin, 10h. Le marché, lui, perd un 55%, 6071 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.